Bonjour à tous. Ce matin, nous continuons dans l'évangile de Jean. Nous sommes dans le chapitre 12 et nous allons parcourir ensemble du verset 20 jusqu'à la fin du chapitre, le verset 50, donc une trentaine de versets. On va commencer par lire ce passage. Donc je lis dans la version du Semeur. Donc ce passage fait suite donc à l'entrée de Jésus à Jérusalem où les gens criaient Hosanna quand il rentrait. Donc parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait aussi quelques personnes non juives. Elles allaient retrouver Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous aimerions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent ensemble le dire à Jésus. Celui-ci leur répondit. « L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. » Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. À présent, je suis troublé. Que dirais-je ? Père, sauve-moi de cette heure ? Mais c'est précisément pour l'affronter que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, manifeste ta gloire. Alors une voix se fit entendre venant du ciel. J'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai à nouveau. Ceux qui se trouvaient là et qui avaient entendu le son de cette voix crurent que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange vient de lui parler. Mais Jésus leur déclara, ce n'est pas pour moi que cette voix se fait entendre, c'est pour vous. C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant, le dominateur de ce monde va être expulsé. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par cette expression, il faisait allusion à la manière dont il allait mourir. La foule répondit. La loi nous apprend que le Messie vivra éternellement. Comment peux-tu dire que le Fils de l'homme doit être élevé au-dessus de la terre? Et au fait, qui est donc ce Fils de l'homme ? Jésus leur dit alors, « La lumière est encore parmi vous, pour un peu de temps. Marchez tant que vous avez la lumière, pour ne pas vous laisser surprendre par les ténèbres, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tandis que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir vous-même des enfants de lumière. » Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se tint caché loin d'eux. Malgré le grand nombre de signes miraculeux que Jésus avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait prédit. « Seigneur, qui a cru à ce que nous avons prêché ? Et à qui ta puissance a-t-elle été révélée, ô Dieu ?» Pourquoi ne pouvaient-ils pas croire ? C'est encore Ésaïe qui nous donne la raison quand il dit « Dieu les a aveuglés, il les a rendus insensibles afin que leurs yeux ne voient pas, que leur cœur ne comprenne pas. » Qu'ils ne se tournent pas vers lui pour qu'il les guérisse. Ésaïe a dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Et pourtant, même parmi les dirigeants, beaucoup crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'osaient pas le reconnaître ouvertement de peur d'être exclus de la synagogue, car ils tenaient davantage à l'approbation des hommes qu'à celle de Dieu. Jésus déclara à haute voix, « Si quelqu'un me fait confiance, ce n'est pas en moi seulement qu'il croit. » mais encore à celui qui m'a envoyé. Qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé. C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui donc qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai prononcée. Elle le jugera au dernier jour. Car je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. Or, je le sais bien, l'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Et mon enseignement consiste à dire fidèlement ce que m'a dit le Père. Dans ce passage, Jésus nous parle du salut. Il nous parle de ce voyage qui fait passer de la mort à la vie. Il nous parle du jugement qui vient et du choix qui est à faire maintenant. Il nous parle de la mort à soi-même qui permet de renaître. Il nous parle de la lumière qui nous montre le chemin et il nous parle aussi des ténèbres qui le cachent. Alors on va suivre ensemble le Christ dans ce texte, on va étudier ce qu'il nous dit sur le grain de blé, ce qu'il nous dit sur la lumière, ce qu'il nous dit sur le jugement. Et puis j'essaierai de faire un parallèle avec l'actualité, en tout cas celle qui m'a marqué, et puis montrer aussi en quoi ça nous concerne encore aujourd'hui, en quoi ça nous concerne dans notre vie de tous les jours. Au début de ce passage, des non-juifs viennent voir Jésus parce qu'ils veulent le rencontrer. Et Jésus va utiliser le fait que son message commence à atteindre des non-juifs, que son message commence à être propagé vers les nations pour expliquer comment le salut va entrer dans le monde et comment il va concerner tous les hommes. Il nous parle de ce grain de blé qui tombe en terre et qui doit mourir pour porter du fruit. Il nous parle de celui qui doit être élevé, qui doit être glorifié, qui doit vaincre et qui va attirer tous les hommes à lui. Le chemin que décrit le Christ, ce chemin qui va le faire passer de la mort à la vie, il en est le précurseur. Et il nous dit que ce chemin qu'il prend, eh bien, nous aussi, nous allons devoir le prendre. Cette volonté qu'il a eue d'obéir d'abord à son Père, de rejeter la facilité, mais de s'engager sur un chemin où la souffrance était présente. Il nous dit que ce chemin-là nous concerne aussi. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Littéralement, Jésus parle du fait de haïr sa vie, dans le monde pour la sauver. Et là, Jésus, alors c'est vrai que on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire que haïr sa vie. Et on peut regarder comment Jésus a vécu la sienne pour mieux comprendre. Et là, Jésus ne nous parle pas d'ascétisme, hein, il ne nous parle pas d'une tristesse morbide, mais il nous parle d'abord de service, il nous parle d'humilité, il nous parle aussi de ce qu'il avait déjà évoqué, hein, dans le sermon sur la montagne, quand il nous dit « heureux celui qui est pauvre, heureux celui qui se reconnaît pauvre en esprit », d'une certaine traduction. Celui qui est capable de voir la pauvreté de sa propre vie, qui est capable de laisser ce qui trop facilement remplit nos vies, celui qui est capable de se dépouiller de lui-même pour que Christ, pour que Dieu puisse le remplir. Et il nous dit sur ce chemin, celui qui s'engage, s'engage derrière moi. C'est moi qui marche devant. Le disciple suit son maître. Il nous dit, là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Dans ce passage, il est beaucoup question de marche. Il est beaucoup question de se déplacer, d'aller d'un endroit à un autre. Et c'est vrai, la vie chrétienne, c'est une marche. C'est pas simplement être quelque chose, c'est pas faire quelque chose. C'est suivre le Christ, c'est être avec son maître. Et la question que nous pose Jésus, c'est bien celle-là, c'est vous rappeler peut-être de cette prédication qu'avait apportée Ludovic il y a déjà quelques mois. Je ne me rappelle pas de tout ce qu'il avait développé, mais je me rappelle de cette question qu'il avait posée, qu'il avait répétée plusieurs fois. Où est Jésus? Où est Jésus dans ma vie? Alors, là, cette question, Jésus nous la pose encore. Où est-ce qu'il est? Parce que c'est lui que je dois suivre. Et est-ce que là où il est-ce que moi je suis avec lui? Et Jésus nous parle de la gloire de Dieu qui a été manifestée à travers sa vie. Il nous parle de la victoire qui est déjà là. Il nous dit, le monde est jugé, le dominateur, Satan, est vaincu, il est jeté hors de ce monde. Alors, on comprend bien que on est là devant on parle souvent de déjà et de pas encore. L'accusateur est déjà vaincu, pourtant il est encore là. Satan a été vaincu à la croix. Ah voilà, on a un duo. C'est pas grave. Satan a déjà été vaincu à la croix. À la croix, Jésus nous a dit que tout était accompli, et c'est vrai, et nous devons nous y attacher. Et pourtant, ce passage nous montre que la foule ne comprend pas ce que dit Jésus. Elle ne le comprend pas, elle lui dit, mais alors je pense que les gens ont compris que Jésus se présentait comme étant le Messie. Et Jésus parle du fait qu'il va être élevé, comme le serpent a été élevé dans le désert. Vous vous rappelez de ce passage de l'Exode où Moïse cloue le serpent et tous ceux qui le regardent sont sauvés. Cette image nous parle bien sûr de Christ et du fait que ceux qui se tournent vers lui sont sauvés à leur tour. Mais la foule ne comprend pas de quoi parle Jésus. Elle lui dit, mais le Messie ne peut pas, va vivre éternellement. Comment est-ce que tu peux parler de ce Fils de l'homme qui doit être élevé? Et puis d'ailleurs, mais qui est ce Fils de l'homme? Et Jésus va leur répondre d'une façon, comme à chaque fois, particulière. Il ne va pas leur faire une explication de texte sur qui est le Fils de l'homme, mais il va leur parler de lumière. De cette lumière qui est parmi vous pour un peu de temps. Il était lui-même à lumière, il éclairait ceux qui le voyaient, ceux qui le regardaient vivre. Il éclairait ce qu'ils étaient, mais il éclairait aussi leur chemin, il éclairait la direction à prendre. Et ici, la lumière, plus qu'un concept philosophique ou spirituel, Jésus va nous dire, voilà, celui qui est dans les ténèbres ne sait pas où il va. Et en repensant à cette façon de parler, je me disais que peut-être pour nous, on se rend peut-être moins compte qu'à une époque où l'électricité n'existait pas. Vous vous rendez compte que, à l'heure actuelle, on a de la lumière partout, tout le temps. Pendant le temps où on était en Afrique, c'était impressionnant de voir que quand la nuit tombe, il fait noir. Il n'y a pas de lumière, on ne voit rien. Et quand on marche au bord de la route, on ne sait pas où on met les pieds. Dans les maisons, quand on s'éclaire avec un feu de bois ou une bougie, la capacité qu'on a à faire quelque chose se trouve fortement réduite. Quand la nuit tombe, là où on peut aller et ce qu'on peut faire, ça devient vraiment peu de choses. Et Jésus nous dit, quand je ne serai plus là, les ténèbres vont prendre la place. Alors, pendant que je suis là, pendant que la lumière vous éclaire, marchez. Et même plus que marcher, il va dire, tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin de devenir des enfants de lumière. La présence de Jésus éclairait la vie de ceux qui le suivaient. Et il leur dit, quand je ne serai plus là, il faut que cette lumière, elle puisse venir en vous. Elle puisse vous éclairer de l'intérieur. Pour qu'à votre tour, vous puissiez voir où vous allez, vers où vous devez marcher. Parce qu'avoir la lumière dans son cœur, c'est avoir un chemin dans son cœur. Vous vous rappelez de cette prière, de cette prophétie que Dieu écrira dans notre cœur, il tracera des chemins dans notre cœur. À la fin de ce passage, Jésus va se cacher. Il dit qu'il les quitte et il s'en va, il se cache. J'ai l'impression qu'il leur dit, voilà, vous avez à faire un chemin, vous avez à croire, vous avez à faire entrer cette lumière que jusqu'à présent vous voyez à travers moi, vous avez besoin de la faire entrer dans votre cœur parce que bientôt je ne serai plus là, vous avez un chemin intérieur à parcourir. Et le texte continue en nous disant que malgré tout ce que Jésus avait accompli, les hommes de son temps ne croient pas en lui. Et donc ce texte nous cite Ésaïe et nous parle d'aveuglement, de dureté de cœur. Il nous parle aussi du fait que cet aveuglement accomplit une prophétie, accomplit cette prophétie où le Christ doit être rejeté par ceux qui le voyaient. Et je pense que c'est effectivement le sens premier de ce passage qui reste quand même difficile à comprendre. Comment est-ce que Dieu peut vouloir rendre insensible et aveugle, hein, de telle sorte que il ne se tourne pas vers lui pour qu'il les guérisse. Alors, ça fait partie des difficultés d'interprétation hein, dans la Bible que ces passages, mais on peut les mettre aussi en parallèle avec ces autres versets qui nous disent que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, que Dieu ne prend pas plaisir dans le châtiment, que Dieu aveugle ceux qui le sont déjà, qu'il endurcit les cœurs durs. On pense à Pharaon, bien sûr, qui refuse de se laisser toucher par la parole. Mais ce texte nous dit que le jugement vient. Que le jugement vient et que qu'il est même déjà là. Qu'il était déjà là au moment où les hommes entendaient parler Jésus. Et ce passage nous rappelle une chose importante, il nous rappelle sur quoi va porter le jugement. On en a un peu parlé déjà ce matin. On pourrait penser que le jugement est d'abord axé sur notre péché, sur nos manquements, sur nos mauvaises actions, sur tout ce qu'on a fait de mal. Et effectivement, un seul péché suffit à être condamné. Le salaire du péché, c'est la mort. On le sait bien. Mais là, le jugement dont il est question ne porte pas sur nos actions. Il porte sur une seule chose. Il porte sur ce qu'on a fait de la parole que Jésus nous a donnée. Il porte sur l'accueil que nous avons fait à Jésus et à ses paroles. Et le critère du jugement, il est là. Jésus nous dit, je ne suis pas venu pour juger. Il n'est pas venu pour condamner nos mauvaises actions. Jésus est venu pour nous sauver. Il est venu pour, il le dit, pour apporter la lumière afin que les hommes ne demeurent pas dans les ténèbres. Il est venu pour ça. Il est venu pour apporter un chemin, pour montrer comment parcourir ce chemin, comment parcourir ce chemin en servant, comment parcourir ce chemin avec en accomplissant le commandement de Dieu, en accomplissant l'amour que Dieu attend de nous, parcourir ce chemin dans la pureté. Et il nous dit, oui, mais celui qui reste dans les ténèbres, il est déjà jugé. Et moi, cette façon de présenter le message de Christ, ça me parle de la façon dont moi je témoigne de ce que je dis à ceux qui m'entourent. Le Christ a vécu en côtoyant, la Bible, le texte nous le dit, en côtoyant les gens de mauvaise vie, en côtoyant les prostituées, en côtoyant les débauchés, en côtoyant les collecteurs d'impôts, en allant leur parler, en les encourageant à changer de vie et en leur disant que le royaume de Dieu s'est approché d'eux, que le pardon est à leur portée et que ce pardon ne s'acquiert qu'en l'acceptant lui, en l'acceptant comme la lumière de sa vie. Je pense que le centre de notre message, il est là. Et bien sûr, en pensant à la façon dont les chrétiens témoignent et dont ils sont perçus dans le monde, hein, vous savez tous qu'on est facilement perçus comme des donneurs de leçons ou des gens qui jugent et qui condamnent. Le Christ n'a pas été perçu comme quelqu'un qui jugeait et qui condamnait, parce qu'il n'était pas venu pour ça. Il était venu pour apporter un autre chemin. Et le texte nous dit que ce jugement qui va venir, c'est le Père qui... Enfin, son autorité est dans le Père, parce que les paroles que Jésus a apportées, c'est le Père qui les lui a données. Le chemin que Jésus a montré conduit vers son Père. Et que, oui, et que le jugement sera d'avoir refusé ce chemin. Je vous ai dit que je voulais essayer de faire un lien entre ce passage et l'actualité, en tout cas l'actualité pour moi de cette semaine. Et il y a une chose qui m'a marqué, sur laquelle j'ai réfléchi et qui me touche. Vous en avez probablement entendu parler aussi, mais le génocide rwandais a eu lieu il y a 20 ans. De même que que l'Holocauste juif de la dernière guerre, ce genre d'événement nous interroge, hein, sur notre humanité, sur ce que c'est que d'être un homme et comment des hommes arrivent à faire des choses aussi monstrueuses. Et ce génocide au Rwanda a ça de particulier, c'est que des gens comme vous et moi ont participé. Et on se demande qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à prendre sa machette et à aller tuer la famille de ses voisins. Et en lisant des témoignages, en lisant des comptes rendus de personnes qui sont allées là-bas après, pour dans tout le processus de reconstruction, de réconciliation qui a pu y avoir. Témoigner sur le fait que les gens qui partaient pas forcément en ville, mais dans les campagnes, ces espèces d'expéditions meurtrières, en fait, ceux qui ont participé à ça disaient mais on n'avait pas le choix, parce que on était... Si on n'y allait pas, on risquait d'avoir des... On était obligé, il y avait des amendes si on n'y allait pas. Et quand on se demandait, quand on leur demande qu'est-ce que c'était ces amendes, pour donner l'ordre d'idée, c'est comme si l'amende était de 10 euros pour nous. Oui, c'était le prix de 3 baguettes de pain. Et on se dit, voilà, comment on peut abandonner ce qui fait une partie de son humanité pour quelque chose d'aussi dérisoire. Et en lisant ce passage, on lit que des pharisiens, que des dirigeants du peuple, à l'époque aussi, ont cru en Jésus. Mais ils n'ont pas osé le reconnaître, parce qu'ils ont eu peur d'être exclus, parce que le texte nous dit qu'ils ont tenu davantage à l'approbation des hommes qu'à celle de Dieu. Et là aussi, on peut se dire quelle raison dérisoire de refuser le salut que de rechercher d'abord l'approbation des hommes. Les mauvais choix viennent pas comme ça. Les mauvais choix résultent aussi d'un chemin. Ceux qui ont tué autant les Juifs que les Tutsis, le chemin avait été préparé pendant longtemps avant d'en arriver là. La peur, la haine, l'égoïsme, l'avidité aussi. Nous avons le même terreau, la même terre sur laquelle a poussé ces plantes qui ont amené au meurtre et à l'horreur. Nous avons le même terreau que les bourreaux allemands ou les bourreaux hutus. Nous avons le même terreau. Mais qu'est-ce qui pousse ? Et je crois que ce passage nous parle de ces choix, de ce chemin que nous avons à prendre, qui nous amène soit vers les bons choix, soit vers les mauvais. Le Christ nous parle de renoncer à notre vie, ce premier pas qui fait qu'on accepte de reconnaître notre pauvreté, qu'on accepte de déposer cet égoïsme qui s'attache à nous. Ce chemin où la lumière vient entrer dans nos cœurs, où nous cherchons des yeux où est le Christ pour le suivre, pour qu'il nous montre ce qui est juste, ce qui est bon. Paul rajoute ce qui est parfait. Le Christ vient éclairer nos actions, il vient éclairer nos choix, il montre la direction. C'est sur la réponse à cet appel que nous serons jugés. Et ça concerne, c'est vrai, notre salut et notre vie éternelle. Ça concerne aussi peut-être nos choix de tous les jours. On n'aura probablement pas à faire des choix aussi fondamentaux ou aussi tragiques que ceux qui ont choisi de cacher des Juifs pendant la guerre, de cacher des Tutsis au Rwanda. J'espère qu'on n'aura jamais à faire des choix aussi terribles que cela. Malgré tout, on a, dans notre vie de tous les jours, on a des choix à faire. On a parlé de l'épreuve qui nous rencontre, qui nous renverse parfois dans notre vie. Dans l'épreuve, on a des choix à faire, de se détourner de Dieu, ou bien de s'y attacher. Dans les rencontres que nous faisons, nous rencontrons des gens qui ont parfois besoin, parfois de pas grand-chose, mais parfois de quelqu'un qui soit là pour les écouter, pour donner un coup de main. C'est pas forcément énorme parfois, mais celui qui est tellement plein de lui-même, comment est-ce qu'il peut arriver à écouter, à voir la détresse de celui qui est à côté de lui? On peut facilement passer sans se rendre compte de rien. Mais si le Christ est devant nous, eh bien peut-être qu'on peut le voir, se pencher pour tendre la main à celui qui en a besoin. Alors bien sûr, moi, ce passage, bien sûr, le thème de la lumière, le thème du grain de blé, du jugement, toutes ces choses-là, on les a déjà entendues, je pense, chacun, de nombreuses fois. Mais ça permet, je pense, de revenir sur les fondements de notre vie, tout comme... Ben voilà, cette actualité nous renvoie aussi à ce que nous sommes et aux choix que nous faisons, aux choix qu'on aurait pu faire si on avait été dans d'autres circonstances, des réponses qu'on n'aura pas forcément. Mais Mais par contre, ça nous renvoie aussi à la façon dont, dont nous sommes capables de répondre, à la façon dont nous sommes capables de suivre le Christ sur le chemin qu'il trace devant nous. Que le Seigneur nous bénisse cette semaine.